je vais vous présenter donc quelques contrastes pertinents pour l'acquisition du français par les locuteurs de turc. Alors, deux petites précisions avant de commencer. La première, c'est que je ne suis absolument pas turcophone, même si j'ai étudié le turc. Ce qui fait que je ne vous parlerai pas de la langue orale parce que ce n'est pas du tout de l'ordre de mes compétences. Et puis la deuxième précision, c'est que je vais vraiment me focaliser sur tout ce qui est grammaire, on va dire. Voilà. Donc je vais vous proposer une sorte de comparaison en fait des systèmes du français et du turc pour des points qui me paraissent, sujets à poser problème en quelque sorte. Alors voilà donc ce que je voudrais vous présenter. On va retrouver des choses dont Anne a déjà parlé dans sa présentation ce matin, des phénomènes qu'on aura déjà vus, mais voilà, ils auront une illustration supplémentaire par le biais du turc. Donc j'ai choisi de présenter trois zones, on va dire, de la grammaire, la phrase, les verbes et puis le syntagme nominal. Alors dans la phrase, on va parler de l'ordre des constituants, on va parler du système casuel et puis de la manière dont on construit les questions ou de certaines constructions particulières qui existent en turc mais pas en français. Pour les verbes, je vous ai dit qu'on ferait plutôt de la grammaire, mais en fait pour les verbes, on va faire de la morphologie. C'est-à-dire qu'on va voir la manière dont on construit un verbe en termes de suffixes verbaux. Il y a des suffixes qui existent en turc qui n'existent pas en français. Et puis la manière également dont on conjugue. Et puis le troisième point, ça sera le syntagme nominal. On va voir en fait qu'il existe des noms qui apparaissent sans déterminant. On va voir le fonctionnement de l'article ou le fait qu'il n'y a quasiment pas d'article et en quoi on a une interaction avec le pluriel. On parlera également des possessifs et pour finir du complément du nom. Et voilà, je pense que quand on aura fait ça, bon, voilà, vous aurez une vision un petit peu générale des points qui me paraissent vraiment, qui méritent d'être mentionnés, je pense. Ok, alors, donc... Il y a en ligne l'histoire de l'âne hein, sur le site du projet que vous pouvez lire et écouter. Je vous la rappelle ici très rapidement, donc je vous laisse la lire deux minutes. Alors pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je vous rappelle cette histoire? Parce qu'en fait j'ai choisi mes exemples, les exemples sur lesquels je vais travailler parmi les phrases de l'histoire de l'âne. Donc voilà. Vous pourrez donc retrouver en fait quand vous irez voir l'histoire sur le site, vous pourrez retrouver les exemples que je vais vous présenter aujourd'hui et que je vais discuter aujourd'hui. C'est bon, je peux. Alors donc je vous ai dit qu'on allait commencer par la phrase et plus spécifiquement l'ordre des constituants. Alors cette phrase que vous avez là, que je ne prononcerai absolument pas parce que je pense que les turcophones dans la salle tomberaient à la renverse, donc je vais éviter ça. Cette phrase, c'est donc la première qui ouvre le récit. Donc c'est un jour, un des voisins qui vient à la porte de Nasreddin Hoca. Alors, si je segmente la phrase, voilà ce que ça donne. Vous avez d'abord le temps, le lieu, le sujet et le verbe à la fin, d'accord ? Je vous ai mis en dessous la traduction en français et ce que j'ai mis en bleu, c'est les points qui me semblent importants quand on se place du point de vue de la comparaison entre les deux langues, en fait. Hein. Donc, si vous regardez la phrase en français, vous voyez que finalement, on a l'impression que le verbe en français, il est au milieu. Il y a le sujet devant, il y a l'objet, les compléments, les circonstances, etc. derrière. Alors qu'en turc, le verbe est final. Okay. Un point en fait important dans cet exemple-là, c'est que à la porte de Hoca, vous l'avez après le verbe en français, vous l'avez avant le verbe en turc. Donc il y a une différence en ce qui concerne l'ordre des mots, enfin l'ordre des constituants plus spécialement. Un autre exemple. Donc voilà, le Hoca sort à l'extérieur pour parler avec son voisin. Voilà ce que ça donne en turc. Et là, vous avez l'ordre vraiment typique d'une phrase en turc. en gros, on va dire le sujet au début et le verbe à la fin, il reste entre les deux. Voilà, pour dire les choses très, de manière un peu caricaturale, mais voilà. Alors que si vous prenez l'ordre du français, c'est le verbe au milieu, le sujet devant, le reste après. Donc voilà, il y a une différence importante en ce qui concerne l'ordre des mots. Et puis, il y a également dans cette phrase quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est une subordonnée. Donc la subordonnée, c'est pour parler avec son voisin. Alors, elle est intéressante, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle présente ce qu'on appelle parfois un ordre miroir par rapport au français. Autrement dit, je commence par décortiquer la phrase en français. Donc, la phrase en français, c'est pour parler avec son voisin. Ce que vous avez là, c'est une préposition, au début, suivie par ce qu'on pourrait appeler une subordonnée infinitive, donc le verbe à l'infinitif, plus le complément du verbe. D'accord ? Donc, en gros, vous avez le complément du verbe après le verbe et l'ensemble, c'est le complément de la préposition et ça arrive après la préposition. Le français est ce qu'on appelle une langue ou à tête initiale, c'est-à-dire que vous avez la tête d'abord et le complément après. Donc, vous avez la préposition d'abord, le complément de la préposition après, le verbe d'abord, le COD après, etc. Le turc, c'est exactement le contraire. C'est une langue qu'on appelle parfois à tête finale. Donc, si vous regardez l'exemple turc, vous avez l'ordre qui est exactement inverse de celui du français. Et à ce propos, vous voyez qu'en français, on a une préposition. En turc, on a une postposition. Alors, une préposition et une postposition, c'est exactement la même chose, sauf que la postposition, elle est après. Voilà. Mais voilà. Donc, ici, c'est clair, hein, Vous mettez la phrase en turc et vous mettez la phrase en français dans un miroir et elles se regardent en fait. Ok, voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement des deux langues, le contraste entre les deux langues. On reviendra un peu plus loin, on aura l'occasion de voir à nouveau ce phénomène de tête finale en turc. Alors, une deuxième spécificité de la phrase turque, c'est le fait que vous y trouvez des cas. Donc, dans cet exemple, pouvez-vous me donner votre âne ? Vous voyez que vous avez votre âne qui est le COD et il porte une marque qui est une marque d'accusatif. Et puis, pouvez-vous me donner votre âne ? Donc, me, c'est à moi, d'accord ? C'est le COI. En turc, vous trouvez une marque de datif. Et vous observez que vous avez une marque de datif et vous n'avez pas ici ni de préposition, ni de postposition, en fait. Hein. La marque de datif joue le même rôle que la préposition « a » en français, dans cet exemple. Je signale également que si vous regardez le nombre d'arguments, en gros, de fonctions syntaxiques associées au verbe, en français, vous avez un sujet, un objet direct et un objet indirect, en turc, vous avez bien votre COD, votre COI, mais vous ne voyez pas de sujet. Quand le sujet est un pronom, en principe, on ne l'utilise pas, sauf si on veut insister. Mais dans un cas comme « pouvez-vous me donner votre âne », on n'a pas besoin d'insister sur le sujet, on va donc éviter de l'exprimer. Deuxième exemple avec des cas. Donc, j'entends sa voix... la traduction, c'est « j'entends sa voix derrière le mur », mais en fait... vous pourriez le traduire par « j'entends sa voix depuis derrière le mur ». Okay ? Ce que je veux dire par là, c'est que l'arrière du mur, c'est le lieu d'origine hein, du son, de la voix de l'âne. Et ici, vous voyez que vous allez utiliser l'ablatif pour signaler le point d'origine. Donc, à nouveau, c'est un cas. Les cas en turc sont... Enfin, on dit parfois que ce sont des cas sémantiques. C'est-à-dire que ce qui va déterminer le choix d'un cas plutôt que d'un autre, c'est des facteurs de sens, qui tiennent au sens. Ici, c'est le point d'origine. Donc, on va utiliser l'ablatif. Vous retrouvez l'accusatif qu'on a déjà vu tout à l'heure. Un autre exemple avec le datif. Donc, j'emmènerai mes affaires en ville. Le datif renvoie au fait que la ville, c'est le lieu vers où on se dirige. Donc, si vous voulez, vous avez l'ablatif qui renvoie au lieu duquel on vient et le datif. On a vu tout à l'heure, hein, pouvez-vous me donner votre âne ? C'est le bénéficiaire, avec le verbe donner, mais c'est aussi le lieu vers lequel on va. Et vous retrouvez encore une fois l'accusatif, puisque vous avez un objet direct. Et à nouveau, hein, dans cet exemple, il n'y a pas de préposition. D'accord ? On va en ville. En français, il vous faut une préposition. Ici, vous avez le datif et ça suffit. Pas besoin de préposition. Alors, un autre phénomène que je trouve assez intéressant quand on regarde la phrase, c'est la manière dont on pose les questions. Donc, pour faire un petit point de rappel, il y a deux sortes de questions. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des questions oui-non, des questions totales, d'accord ? Donc, en gros, vous demandez si telle chose... Vous attendez une réponse par oui ou par non. Est-ce que tu vas partir ? Réponse oui, réponse non, ok ? Ça, c'est les questions oui-non, totales, etc. Et puis, vous avez les questions pour lesquelles vous allez interroger spécifiquement sur une donnée de la phrase, sur une information. Par exemple, où est-ce que tu vas ? Donc, vous interrogez sur un lieu. Qui va venir ? Vous interrogez sur un des participants, etc. D'accord ? Donc, les questions partielles, donc les questions interrogatives, je les montrerai, mais elles ne sont pas remarquables, on va dire. C'est surtout les questions oui-non qui sont intéressantes. Donc ici, vous avez un exemple qui est une question oui-non. Pouvez-vous me donner votre âne aujourd'hui ? Donc, réponse oui ou réponse non. Okay ? Alors, si vous regardez comment ça fonctionne en turc, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin de la phrase, je vous ai mis en rouge « mi ». Qu'est-ce que c'est que « mi » ? « Mi », c'est une particule interrogative. Donc, si vous voulez demander « pouvez-vous me donner votre âne aujourd'hui ?», à la fin de la phrase, vous allez mettre la particule « mi » qui signifie que votre phrase, elle est interrogative. Et vous ajouterez sur cette particule la marque d'accord. Au lieu de la mettre sur le verbe, vous allez la mettre sur la particule interrogative. Alors, si vous comparez avec le français, finalement, si je prends l'exemple « pouvez-vous me donner votre âne ?», vous pouvez dire que c'est très différent. Parce qu'en français, on va faire ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Évidemment, la question en turc ne se pose pas. Il n'y a pas d'inversion du sujet. D'accord ? D'autant plus que dans cette phrase, il n'y a pas de sujet. Donc, raison de plus pour ne pas avoir l'inversion du sujet. Mais finalement, ça peut faire penser aux questions introduites par « est-ce que ?». Parce que c'est quoi « est-ce que ?» C'est un espèce de présentatif interrogatif. Je ne sais pas comment le dire. Mais une fois que vous utilisez « est-ce que ?», vous avez signalé que votre phrase était interrogative. Et vous n'avez plus besoin d'inverser ou de faire d'autres choses. D'accord ? Il reste quand même une différence importante, c'est que quand vous formulez une question « est-ce qu'en français, votre « est-ce qu'il est au début de la phrase ?», alors qu'en turc, la particule interrogative, elle est en fin de phrase. D'accord ? Et à nouveau, on peut se dire que la particule interrogative, elle porte sur l'ensemble de la phrase. Donc, c'est l'élément central, donc il est à la fin. C'est un peu la même remarque que celle que je faisais par rapport au verbe tout à l'heure. Hein, le verbe est final, d'accord ? Les éléments, les têtes, les éléments importants sont à la fin. Ben, c'est un petit peu ce cas-là qu'on rencontre, je pense, avec la particule interrogative. Un autre emploi de la particule interrogative qui est illustré dans le texte, c'est tout à la fin. Je crois que c'est la dernière phrase du petit texte. À qui est-ce que tu vas faire confiance ? Est-ce que tu préfères faire confiance à l'âne ou à ton hoca ? Et vous voyez ici que pour proposer une alternative à l'âne ou à ton hoca, vous allez utiliser cette particule avec chacun des noms, en fait. D'accord ? Donc, ça interroge sur chacun des noms. Ça met en évidence le fait qu'on interroge. Et puis, vous avez le « ou » au milieu. Alors, je vous ai dit, en face des questions fermées, il y a les questions ouvertes qu'on construit avec des interrogatifs. Voilà un exemple. Bon, vous avez un interrogatif. L'interrogatif, il est normalement placé juste devant le verbe ou bien il reste dans la place de l'élément qu'on interroge. Voilà. Alors, évidemment, comme il y a que deux mots dans ma phrase, c'est un petit peu difficile d'en déduire des contraintes de position, évidemment. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'interrogatif prend une marque de « k », exactement comme n'importe quel pronom ou n'importe quel syntagme. Autre type de phrase qui me paraît assez intéressante et différente du français, on l'a évoqué un petit peu ce matin, c'est les phrases qui sont construites avec un adjectif attribut. Alors, cette phrase, si vous la regardez en français, vous avez trois mots. Je suis désolé, d'accord ? Avec désolé, adjectif, attribut. Si vous regardez le turc, il n'y a qu'un seul mot, en fait. Et ce mot unique, c'est désolé. Alors, on a vu qu'on n'exprimait pas le sujet si on n'était pas, si c'était pas nécessaire. Donc ça, on le sait. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est que ce que vous faites en turc, c'est que vous conjuguez l'adjectif en quelque sorte. D'accord ? Vous n'avez pas de verbe être, mais vous allez mettre la marque d'accord sur l'adjectif lui-même. D'accord ? C'est comme si vous disiez « je me désole » en quelque sorte. Mais c'est bien un adjectif, puisque vous pouvez l'utiliser dans une position épithète, dans la phrase. Voilà. Et vous n'avez pas de verbe être dans cet exemple. Donc sans doute qu'il va falloir envisager peut-être un travail un peu approfondi sur ce type de phrase finalement. Autre type de phrase qui n'existe pas en français, alors je vous propose de commencer par regarder la deuxième, parce que la deuxième elle est encore plus intéressante. Ce que vous avez en rouge, yok, ça signifie il n'y a pas. Donc c'est à la fois le présentatif il y a, plus la négation. Et vous faites ça avec un seul mot. Alors qu'en français, vous avez « il n'y a pas ». D'accord ? À nouveau, élément central, d'accord, sémantiquement, ben vous le trouvez à la fin de la phrase. Alors, vous avez la variante non négative qui est « var il y a ». D'accord ? Donc, il y a un inconvénient avec var et il n'y a pas d'inconvénient avec yok. La deuxième est dans le texte. Je crois que la première n'y est pas, mais je crois que la deuxième est dans l'histoire. Il y en a au moins, de toute façon, il y en a une des deux dans l'histoire de l'âme. Alors, deuxième thématique, c'était la manière dont on va. Comment dire, les suffixes qu'on va pouvoir associer au verbe. Et je vous avais dit que c'était assez différent de ce qui se passe en français. Effectivement. Alors, je reprends une des phrases qu'on a déjà vues tout à l'heure, parce que je voudrais soulever donc un autre point. Si vous regardez la phrase en français, « Pouvez-vous me donner votre âne aujourd'hui ?» Vous voyez que vous avez deux verbes. Vous avez le verbe « pouvoir » et vous avez le verbe « donner ». D'accord ? Si vous regardez ce qui se passe en turc, en fait, il n'y a pas de verbe « pouvoir ». Il y a un suffixe sur le verbe « donner ». Ce suffixe, c'est l'équivalent de « pouvoir ». Sauf qu'au lieu d'utiliser un verbe autonome, ben en fait, c'est un élément que vous allez associer au verbe qui va avoir cette fonction-là. D'accord ? Un seul verbe, en fait, dans cette phrase. Alors, vous avez aussi « ne pas pouvoir ». Donc, ne pas pouvoir, c'est la première phrase, hein, yemez. Il ne peut pas dire cela. Donc, vous avez le verbe dire, plus en suffixe, qui est le suffixe de l'impossibilité. Le précédent, c'était la possibilité. Celui-là, c'est l'impossibilité. Si il s'agit simplement de faire une phrase négative, hein, de faire porter une négation sur le verbe, vous avez un suffixe négatif qui est « mez », donc que vous voyez dans la deuxième phrase. D'accord ? Donc en français, alors évidemment suivant que vous êtes en français écrit ou en français oral, en français familier vous avez juste pas, si vous êtes en français écrit, évidemment, il vous faut « ne » plus « pas », ça encadre le verbe, vous voyez que ce n'est pas exactement le même fonctionnement. Hein. Donc, on peut se dire que, sans doute, pour tous ces phénomènes liés à la morphologie verbe, enfin, disons qu'en turc, vous avez de la morphologie sur le verbe, alors qu'en français, ce n'est pas de la morphologie sur le verbe, c'est d'autres verbes, c'est des éléments autonomes comme la négation, etc. Donc, il y a vraiment des systèmes qui sont différents et qui vont peut-être mériter un peu plus d'attention quand il s'agit d'enseigner le français. Alors, je passe au système des temps. Alors, je ne vais pas tout vous présenter. Voilà, je voulais... Non, je n'aurai pas le temps de toute façon. Voilà. Il me reste beaucoup de temps.
5 minutes.
D'accord. Alors, donc, je vais aller vite. OK. Donc, vous avez en fait deux présents. Alors, ça, vous pourrez le voir si vous regardez l'histoire. Quand vous êtes dans les dialogues de l'histoire, il y a un présent qui est un présent construit avec « yor ». En fait, ce présent-là, il est similaire au progressif de l'anglais, en fait. Dès l'instant où vous décrivez une action qui est en train de se dérouler, c'est celui que vous allez utiliser. Mais quand vous êtes dans le récit lui-même, dans l'histoire de l'âne, il y a un autre présent qu'on appelle l'aoriste, qui est en fait un présent qui va être utilisé pour décrire des vérités générales, etc. Tout ce qui n'est pas en train de se dérouler, on va dire. Donc ça, c'est le deuxième présent. Le passé, il y en a deux, je vous en montre un parce qu'il est dans l'histoire. C'est un passé qu'on construit au moyen de « dit ». Alors, dans la première, vous avez « dit ». Dans la deuxième, ce que vous voyez, c'est « t » plus un « i » sans point que je me garderai bien de prononcer. Mais c'est la même chose, d'accord ? C'est le même suffixe, il y a des variations de forme, mais c'est exactement le même suffixe. Celui-là, c'est celui qui correspond, on va dire, au passé composé. Okay ? Pas d'auxiliaire en turc. Je vous ai mis l'auxiliaire en bleu dans les exemples. Il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, à nouveau, la maîtrise de l'auxiliaire, ça va peut-être demander aussi un travail un peu spécifique. Et puis, si vous voulez faire l'équivalent de l'imparfait, eh ben vous avez le droit d'avoir deux suffixes de temps en même temps sur le verbe. Donc, si vous voulez faire « j'entendais sa voix », vous allez utiliser le suffixe du présent progressif plus le suffixe du passé. Et en gros, ça, si vous le décomposez morceau par morceau, ce que vous dites, c'est « j'étais en train d'entendre sa voix ». Et ça correspond à de l'imparfait, finalement. Donc, idem dans la deuxième. Alors, dernier thème, syntagme nominal. Ces exemples donc, vous montrent qu'en turc, on n'a pas de genre. Alors, j'ai pris un exemple avec un animé, c'est l'histoire de l'âne, d'accord ? Si ça avait été l'histoire d'une ânesse, bah, en français, on aurait eu S sur âne. En turc, vous auriez eu un adjectif, alors je pense que c'est un adjectif qui signifie femelle, okay, que vous auriez mis devant âne pour dire âne femelle. D'accord ? Vous n'avez pas de... Vous n'avez, le genre n'existe pas. Donc, si vous avez besoin de l'indiquer, il va falloir avoir recours à des stratégies, comme quand en français, vous dites une femme médecin, par exemple. Hein, c'est la même chose, sauf que c'est généralisé dans le cas du turc. Pas de genre non plus sur les pronoms. Ça fait une distinction, les pronoms sujets. Si vous prenez l'anglais, il n'y a pas de genre, mais vous avez he ou she. En turc, non, il n'y en a qu'un. Et en plus, vous ne l'utilisez pas... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne l'utilisez pas systématiquement. Alors, en turc, il y a des noms qui peuvent les noms très fréquemment peuvent être indéterminés, non précédés par un déterminant. Alors, ne pas confondre indéterminé et indéfini. Dans le premier exemple, j'ai donné l'âne à quelqu'un d'autre. C'est un âne bien défini. Vous voyez l'article défini en français. Donc, vous avez un nom indéterminé interprété comme défini. En fait, ce qui fait le travail, c'est la marque d'accusatif que vous avez dessus. Si vous prenez le deuxième exemple, c'est « il répond ». Mais en fait, pour dire « il répond », on dit « il fait réponse ». Réponse, il n'y a pas de déterminant devant. Mais ça ne signifie pas « il donne la réponse ». C'est « il fait réponse ». Donc, c'est un nom qui est interprété comme indéfini. Et il n'est pas déterminé non plus. Un autre exemple, alors si je veux dire un âne est en train de braire, je vais utiliser bir qui est l'article indéfini, c'est comme en français, c'est l'indéfini et le numéral 1, c'est le même. Mais je peux dire l'âne est en train de braire, auquel cas je vais utiliser un nom indéterminé. Donc la difficulté des noms indéterminés, c'est qu'ils ne sont pas toujours interprétés de la même façon. On peut se demander si l'opposition définie-indéfinie qu'on a en français, elle est vraiment, y a un parallèle en turc, ou si cette distinction-là n'est pas un petit peu différente, on va dire, de celle qu'on a en français. Le pluriel. Alors, le pluriel, c'est un suffixe sur le nom, mais... Vous ne pouvez avoir du pluriel que si le nom est interprété comme défini. C'est-à-dire que quand je vois « échec l'air », ça ne peut pas signifier « des ânes ». C'est forcément « les ânes ». Donc, si je mets du pluriel, j'interprète comme défini. On a vu un exemple similaire ce matin, je ne sais plus pour pour le créole haïtien, je crois. Quelque chose d'assez proche. Une autre petite subtilité, c'est que si vous utilisez un numéral, le numéral suffit à indiquer le pluriel et vous n'avez pas à mettre de marque de pluriel sur le nom. Donc, peut-être que... Alors, ça ressemble, si vous êtes à l'oral en français, c'est pareil. Hein. Deux ânes, vous n'entendez pas le S à la fin de âne, vous entendez juste le 2. Mais à l'écrit, ben, il faut penser à mettre le S. Alors, petites interactions entre... Ben voilà, ça, en gros, c'est une espèce de petite récapitulation de ce qu'on a vu dans les exemples précédents. Donc, je vais passer... parce que je crois que je suis en retard. Les possessifs, c'est des suffixes. Il n'y a pas de déterminant possessif. Il y a bien des possessifs, okay, mais ces possessifs-là sont suffixés au nom. Et puis, le fonctionnement des compléments du nom, pour terminer. Alors, si on veut comparer le fonctionnement des compléments du nom, en fait, je crois que ça ressemble plutôt à ce qui se fait en anglais avec le génitif, John's Book, qu'à ce qui se fait en français. Si je prends l'âne du Hoca, en fait, vous voyez que si vous regardez l'exemple en turc, vous avez d'abord le complément, puis le nom principal. À nouveau, hein, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, le verbe est final, on a des postpositions. Bah, quand vous avez un complément du nom, vous avez le complément d'abord et le nom après. Sur le complément, vous allez mettre une marque de génitif. À nouveau, on peut penser à l'apostrophe S de l'anglais. Mais la différence, c'est que vous allez aussi marquer le nom principal avec les suffixes qui servent de déterminant possessif qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Donc, en fait, c'est omettre son âne. D'accord ? C'est comme ça qu'on construit un complément du nom. Voilà, le deuxième exemple, c'est le même que le premier. Voilà, donc il me semble que les contrastes pertinents ou significatifs, on va dire, voilà, donc c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Il y a des problèmes d'ordre, enfin il y a des variations d'ordre. En français, le complément, il est après la tête, en turc, il est avant la tête. Ça influence évidemment sur la position du verbe et la structure de la phrase. On a vu que les interrogatives étaient assez différentes. On a vu que on avait en français, qui n'existe pas en turc, en français on a des verbes modaux, en turc on a des suffixes modaux, idem pour la négation. On a des auxiliaires en français qu'on n'a pas en turc. Et puis il me semble que tout ce qui est détermination, alors détermination, présence d'un déterminant, pas de déterminant, interprétation définie, interprétation indéfinie, pluriel, singulier, etc. Tout ça présente des interactions en turc qui sont, à mon avis, qui peuvent compliquer l'acquisition du système du français. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.